à la fin de notre journée, il m'a remis à la tâche difficile de donner un petit point de conclusion. Alors, c'est difficile parce qu'on a entendu tant de choses, on a déjà vu beaucoup de versets, on a beaucoup échangé entre nous, on a entendu des témoignages extraordinaires, et il faut pouvoir essayer de, en quelques mots, dire quelque chose. Alors, rapidement, tout d'abord, je voudrais me faire l'organe, je pense, de tous ici pour quelques remerciements. Tout d'abord, je voudrais remercier ceux qui ont choisi le thème de cette journée et qui surtout ont trouvé la formulation pour une église rayonnante. Et je trouve que cela a donné le ton à toute la journée, et nous a donné un élan, en tout cas c'est comme cela que je l'ai vécu, pour être stimulé dans notre vie d'église locale. Un remerciement aussi tout particulier à nos visiteurs, à Douglas, à Roland, à Pierre-Étienne, qui ont fait beaucoup de kilomètres pour venir nous apporter ce qui peut-être nous paraît un air d'une autre planète, mais qui en tout cas nous stimule et nous fait du bien. J'aimerais aussi dire que ces réflexions que nous avons en tant qu'église, ou ensemble d'églises qui partageons une histoire un peu commune, qui partageons aussi des valeurs et une forme largement commune, ces réflexions-là, le monde évangélique les a en global. En 1974, s'est réuni à Lausanne un congrès pour l'évangélisation mondiale et qui a eu un impact durable sur le mouvement évangélique. Et un troisième congrès va s'ouvrir d'ici quelques jours au Cap, Afrique du Sud et à la mode, pour réunir le monde évangélique global. Alors, on a entendu qu'en Colombie, et je pense que c'est hélas vrai aussi en France, il y a à boire et à manger. Mais enfin, si nous, peut-être, nous constatons un déclin démographique, il faut savoir qu'en 36 ans, le monde évangélique est passé de 277 millions à 729 millions dans le monde. Comme je dis, il y a sans doute à boire et à manger là-dedans, mais c'est en fait un constat, et nous pouvons remercier le Seigneur parce que, sans doute, parmi ceux-là, il y a une immense majorité de ceux qui connaissent Jésus comme leur sauveur. Et donc, ces réflexions, nous les avons, nous les partageons avec d'autres, et je pense que ça vaut la peine aussi de s'ouvrir à ces perspectives-là. Alors, je vous propose trois textes. Et le premier, je le prends à la fin de l'Évangile, du chapitre 13 de l'Évangile selon Luc. Et ça m'a beaucoup frappé. Alors, on le lit ensemble. « Il en viendra du nord, de l'est et de l'ouest, du nord et du midi, et ils s'assieront dans le royaume de Dieu. Et voici, il y a des derniers qui seront les premiers, et il y a des premiers qui seront les derniers. » Je pense qu'en France, nous étions parmi ces premiers. Est-ce que la France est la fille aînée du darwinisme? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est clair que nous avons bénéficié depuis 180 ans dans le mouvement d'église qui est représenté ici, de beaucoup de choses. Et franchement, croyez pas, partagez pas mon sentiment qu'après avoir entendu ce qui se passe en Colombie, ce qui se passe au Canada, et Pierre-Étienne aurait pu nous dire beaucoup de choses sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, on peut dire aussi qu'il y a des premiers qui sont en train de reculer et des derniers qui passent devant. Et c'est comme cela dans le royaume de Dieu. Alors, est-ce que c'est pour nous inciter au découragement? Pas du tout. Quand le Seigneur met en avant la foi d'un centurion pour stimuler ses auditeurs juifs, c'est pas pour les inciter à ne plus rien faire, c'est au contraire pour les stimuler, en disant qu'il y a des gens qui viendront d'Occident, d'Orient, et qui s'assieront avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu. Et donc, que cette vision nous stimule et aussi nous rende humbles. Parce que, qu'on le veuille ou pas, une vieille mentalité colonialiste du fait que c'est quand même d'Angleterre, de Suisse, de France, que viennent les choses, demeure et reste un petit peu. Il me semble qu'il faut inverser les choses. Et aujourd'hui, vous serez sans doute d'accord avec moi qu'on était secoués là-dedans et qu'on a envie d'un peu d'inverser les choses. Elle me disait au creux de l'oreille qu'en entendant ce que disait Douglas, on avait l'impression qu'on ne jouait pas dans la même division. Hein. Nous, eux, ils sont en première division, et nous, on est quelque part en division d'honneur, et encore en régional 2. Mais il n'empêche que si on a cette prise de conscience qu'on a un acquis historique, mais que d'autres sont en train de nous devancer dans la vision de l'Église, dans la mise en place d'une approche de l'autre et de la culture au XXIe siècle sans compromis avec la vérité, eh bien je crois que c'est une bonne chose parce que ça nous remet à notre juste place. Le deuxième texte, c'est Jean 13, versets 34 et 35. En circulant un peu dans les ateliers, j'ai été frappé. Ce texte est revenu plusieurs fois. Et je crois que ce matin aussi, il avait été cité dans les exposés. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l'un l'autre. Comme je vous ai aimé, que vous aussi vous vous aimiez l'un l'autre. À tous, à ceci, tous connaîtront que vous êtes venus ici, si vous avez de l'amour entre vous. Francis Schaeffer, un grand penseur chrétien du XXe siècle, a intitulé ces versets « La marque du chrétien ». Et dit que le monde a le droit de ne pas croire, et a le droit, si on prend le texte du chapitre 17, de ne pas croire que le Fils a été envoyé par le Père, autrement dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, si on n'a pas d'amour entre eux. Et donc on comprend à quel point, et je crois que c'est revenu plusieurs fois dans cette journée, si on veut une Église rayonnante, eh bien, il faut qu'on montre cet amour les uns envers les autres. Ou pour prendre la contraposée, si le meilleur tueur d'une Église rayonnante, c'est le manque d'amour, c'est le manque de pardon, d'où il y a des chicanes, c'est ça. C'est cela qui sera le plus surdestructeur d'une croissance de l'Église. Et à contrario, si on sait, eh bien, cela sera visible. Alors, donc, si le point de départ, il commence peut-être à aller voir la grand-tante avec laquelle je suis un peu fâché depuis quelques années, il commence peut-être à aller dire à un frère dont l'email m'a blessé, bah, écoute, il faut qu'on en parle, et ça commence peut-être à des choses, voilà, des choses très concrètes. Le rayonnement, il commence peut-être par là. Je vous donne un commandement nouveau. Et le vieil apôtre Jean, qui était là le jour où le Seigneur a dit ce message, peut-être à 90, 95 ans, on ne sait pas. Et la tradition rapporte qu'à Éphèse, jusqu'à 110 ans, il redisait la même chose. Eh bien, mes petits-enfants, aimez-vous les uns les autres. Il y avait beaucoup de choses tristes à la fin du 1er siècle déjà, mais le commandement était ancien et resté nouveau. Que vous vous aimiez les uns les autres. Le témoignage de l'Église primitive, c'était « Voyez comme il s'aime ». Vraiment, qu'on puisse progresser en cela. Et le troisième texte, je le prends du début du livre des Actes, parce que s'il y a eu un moment où l'Église a été rayonnante avec un R majuscule, c'est bien cette effusion qui a suivi le jour de la Pentecôte. Ils persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et les prières, et distribuaient leurs biens à tous, selon que quelqu'un pouvait en avoir besoin. Tous les jours, ils persévéraient d'un commun accord dans le temple, et rompant le pain dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et ayant la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Assemblée ceux qui devaient être sauvés. Ce qui me frappe dans ce texte, ce qui m'a frappé par rapport à tout ce qu'on a pu se dire aujourd'hui, c'est que ce texte a mis de façon absolument extraordinaire les dimensions horizontales et verticales. C'est-à-dire que l'Assemblée, elle est vers Dieu, et elle est aussi vers le prochain et vers l'autre. Et vous remarquerez que dans ce texte, on a cet équilibre. Il y a l'aspect d'adoration, il y a l'aspect d'enseignement, il y a l'aspect de la prière, il y a l'aspect aussi de la distribution des biens. Traditionnellement, les assemblées de frères étaient plutôt dirigées verticalement. Depuis quelque temps, on a aussi ce souci de l'horizontalité, et plusieurs ateliers s'en sont fait l'écho d'ailleurs, en montrant ce souci du prochain, de l'accueil, de l'action vis-à-vis des autres, etc. Et il me semble que la clé et le cœur de ce message de l'Église primitive, eh bien, c'est de dire qu'il faut allier les deux. Et c'était frappant de voir combien, dans les témoignages qui nous ont été donnés, il a été insisté sur l'enseignement, la doctrine, ce qu'il y a en premier, et puis les quatre aspects, le dernier aussi, les prières. Là aussi, la doctrine, la prière, ces points-là qui sont clés. Et il n'y a pas finalement d'autre recette, entre guillemets, pour aujourd'hui comme pour hier, que celle-là. Alors, pour terminer, un petit peu de glanure des différents endroits, et je vous propose sept mots qui commencent par la lettre V. Ce matin, Pierre-Étienne, tu as commencé en disant que Christ était vainqueur, et qu'on était du côté du vainqueur. Et je vous propose d'abord un premier V, c'est notre vécu. Alors, c'est sûr que nous, joueurs de division régionale, on peut quelque part se dire qu'après avoir entendu ce qu'on a entendu, notre vécu semble bien terne et bien pâle. Je vous invite quand même à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain et à considérer qu'on a un vécu qui est certain parfait, certain satisfaisant, et tant mieux quand on ait ce goût d'imparfait, d'insatisfait, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, et bien néanmoins ce vécu, il a quand même quelques mérites. Et je vous invite à regarder avec bienveillance cet héritage aussi qu'on a reçu, parce que je pense que nous devons le considérer comme tel. Deuxièmement, une volonté. Bien souvent, les choses commencent par là. Bien souvent, les choses commencent par ce point-là. Voulons-nous changer quelque chose ou pas? Est-ce qu'on veut changer quelque chose? Est-ce qu'on veut sortir de notre zone d'inconfort, de ce qu'on a toujours fait, de notre tradition? Est-ce qu'on veut changer dans nos pensées? Est-ce qu'on veut changer en voulant mieux distinguer ce qui vient de la tradition ou de ce qui est juste une coutume et de ce qui est l'intangible parole de Dieu, le cœur non négociable de notre foi? Est-ce qu'on veut changer? Est-ce qu'on veut avancer? Est-ce qu'on veut un réveil? Ça aussi, ce sont des réflexions qui sont revenues plusieurs fois. Et dans ce cas-là, il nous faut apprendre une vision. C'est aussi un thème qui est revenu dans plusieurs ateliers, ce thème de la vision, d'avoir un objectif pour nos églises, qui sera sans doute dépendant de la situation et du contexte dans lequel chacun de nous sommes placés, mais néanmoins une vision. Et cette vision, elle passe par deux éléments qui aussi sont revenus très souvent et qui nous sont apparus comme clés, le rôle des anciens dans le leadership. Et là, on est vraiment, je pense, invité par le Seigneur à réfléchir très sérieusement sur ce sujet-là et à le revisiter. Et deuxièmement, la place des jeunes et le fait que nous avons à préparer la prochaine génération, parce que c'est eux l'Église de demain. Le leadership et la place des jeunes. Tout cela peut être vécu dans une grande variété. Une variété, la sagesse est si diverse de Dieu, tu nous as lu ce matin. Et on peut traduire la sagesse multicolore. Nous sommes ici représentants, je ne vais pas compter à partir de la liste, mais peut-être de 20, 30, 35 et églises locales différentes, 35 situations différentes. Ce qu'on vit à Antony n'est pas ce qui est vécu à Thomas, pour prendre deux exemples. Nous sommes une assemblée urbaine, plutôt jeune, etc. Donc, cette variété-là, beaucoup plus grande que jusqu'à présent nous avions pu la vivre démographiquement, sociologiquement, et bien cette variété-là, elle va forcément, me semble-t-il, induire des pratiques qui, localement, seront pas forcément exactement les mêmes. Oh, si nous pouvions apprendre à vivre ensemble, en nous respectant, et en respectant le fait que la pratique ici sera un peu différente de celle-là, mais qu'il n'y aura pas d'anathème entre nos deux églises. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. Mon cinquième point, c'est sur la visibilité. J'ai été frappé que les deux ateliers les moins nourris, puisqu'ils ont dû être supprimés, étaient les deux sur la visibilité. La visibilité vis-à-vis des autorités, la visibilité par rapport aux médias actuels, c'est-à-dire Internet. Et ces deux ateliers n'ont pas trouvé suffisamment de public pour qu'ils puissent être maintenus. C'est quand même un peu frappant. Autrement dit, est-ce que nous aurions peur d'être visibles? Je reviens au point de Roland Kunk, notre petite pancarte qui fait 8 sur 12, ou au mieux 20 sur 15, est-ce que nous aurions peur d'être visibles? Et là, peut-être que c'est une réflexion à prolonger entre nous sur cette visibilité vis-à-vis des autorités. Je dois dire qu'on n'a pas invité le maire d'Antony quand, en 1991, l'Église s'est créée. Je pense que c'était à posteriori, je me dis que c'était peut-être un tort. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'informations transitent par le net. Je suis allé visiter un peu le site de l'Église du Cap de la Madeleine. Je vous invite à y aller. C'est www.eccm.ca. C'est bien ça, vous. Eccm.ca. C'est assez impressionnant. Alors, ces questions, et j'y rattache aussi à cette question de la visibilité, aussi toutes nos relations sociales, point qui a été abordé par Philippe lors de son exposé, toute notre action sociale qui aussi doit être visible par rapport au monde qui nous entoure, cette visibilité de l'accueil de l'amour de Christ. Le sixième point, pardon, c'est la vérité. Rayonnant, oui, mais pas faux. Pas la banane par principe, et puis derrière, ça va pas. Nous serons attirants dans la mesure où nous serons vrais. Nous serons vrais. Et cette vérité, c'est la vérité objective à laquelle nous tenons, cette parole de Dieu non négociable, et pour cela le fondement biblique auquel nous sommes appelés demeure, mais c'est aussi la vérité par rapport à ce que nous sommes. Et on voit que dans ce cas-là, le fond importe beaucoup plus que la forme. Ça aussi, c'est un message important que nous avons entendu aujourd'hui. Cette vérité aussi, elle se cross-fertilise, comme on dit. C'est-à-dire que ce qu'on vit individuellement, ça va rétroagir sur ce qu'on vit collectivement, et de la même manière, dans l'autre sens aussi, c'est vrai. Le réveil commence à être individuel, mais aussi se nourrit du réveil collectif. Et ça aussi, nous avons... c'est des pensées qui nous ont occupés aujourd'hui. Et enfin, le dernier, c'est la vie. La vie. On aimerait plus de vie. Le rayonnement, c'est la vie. On aimerait plus de vie. Mais on est encouragé. Pourquoi ? Parce que 1 Timothée 3, verset 15, au cœur de cette épître, qu'est-ce qu'il nous est dit ? L'assemblée du Dieu vivant. Et quand Jésus parle de son Église, il vient d'être reconnu comme le Fils du Dieu vivant. Et grâce à Dieu, chacun de nous avons affaire à un Dieu vivant. Et ce Dieu vivant, il veut opérer dans ma vie, et Dieu veut qu'il le fasse. Il veut opérer dans vos vies individuelles, il veut opérer dans nos églises. Et alors, comme nous l'avons lu, acte 2, verset 47, le Seigneur ajoutera à l'Assemblée ceux qui devront être sauvés.